Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous. Cette semaine, je suis allée à la rencontre de Ambre Bonnefou en charge de la Tomaselli Collection à Vaise. Une très belle découverte. Guillaume reçoit Mathieu du groupe Phare. Gaëlle, tu évoques la trajectoire de la galerie Le Réverbère qui ferme à la fin de l'année et qui va manquer cruellement au monde de la photographie en France. Thomas, tu nous fais entendre, en fin d'émission, les mots de Thierry Roquet, issus du recueil D'Ordinaire Cascade aux éditions Au Caillou des Chemins. Nous terminerons évidemment avec les Gédéons pour finir en beauté. Nous débutons avec une découverte. Il y a plusieurs mois, un collectionneur a décidé de rendre publique sa collection. Il s'appelle Jérôme Tomaselli et ouvre 600 mètres carrés d'exposition à deux pas de la gare de Vaise. Avec Gaëlle, nous avons été reçus par Ambre Bonnefou et Julia Biel, toutes deux en charge du lieu et de cette collection incroyable. Je vous propose d'écouter notre échange.
Collectionneur est fasciné et a un intérêt particulier avec le 19e siècle. Le dessin, la peinture forment le gros de la collection. Néanmoins, vous avez aussi des œuvres plus récentes et cette collection, elle bouge. C'est pas figé, c'est pas comme un musée.
Oui, c'est ça en fait. Donc Jérôme a commencé à acheter des œuvres il y a une trentaine d'années, ou en tout cas il a commencé à acquérir ses premières œuvres il y a à peu près 30 ans. Et puis au fur et à mesure, il s'est spécialisé dans la création lyonnaise ou en tout cas la création régionale au sens large. On a des artistes qui sont nés directement à Lyon, qui ont vécu à Lyon, mais pas que. On a des artistes qui, bien sûr, ont un lien avec la région, on va dire qu'on pousse à 100 km autour de Lyon. Donc au fur et à mesure, ce qui fait, on va dire, le sens d'une collection, c'est quand même que les œuvres aient un lien, en fait. C'est que...
Avec le territoire.
Voilà, exactement. Un lien avec le territoire et puis qu'elles aient une cohésion entre elles, qu'il y ait une vraie dynamique entre les œuvres, entre les artistes. Et en fait, c'est en tirant des fils, un petit peu comme ça, au fur et à mesure qu'ils s'est tout simplement intéressé à l'école régionale. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une collection privée assez importante parce qu'on a presque 2700 pièces aujourd'hui en réserve, donc accumulées sur 30 ans, hein, bien sûr. Mais donc on a des œuvres qui vont du 16e, 17e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et le gros de la collection, comme vous le disiez, c'est le 19e siècle. Jérôme Tomaselli est un 19e-iste assumé. il n'y a pas de souci. Donc que ce soit les peintures, les dessins, de la photographie, aussi, on a pas mal de photographies aussi, en tout cas c'est quelque chose qui l'intéresse de plus en plus, donc ça nous arrive de racheter des fonds de photos, voire même des plaques photographiques qu'il redéveloppe lui-même après, parce que la photo est une autre passion qu'il a aussi. Monsieur Tomaselli est un homme passionné et passionnant, donc il s'intéresse à énormément de choses, et donc la plupart des œuvres sont conservées ici, mais c'est vrai que pour chaque édition, même si on a un bel espace de 600 mètres carrés de présentation, on peut se permettre seulement de présenter un dixième de la collection, donc ce qui permet au public de revenir sur chaque exposition, redécouvrir les œuvres, et puis on a la chance d'avoir un public fidèle qui revient à chaque fois, voire plusieurs fois par édition, donc c'est toujours intéressant pour nous. Voilà.
Alors, trois expositions par an, vous nous le disiez à peu près, c'est ça. On se souvient d'une exposition sur le paysage qui avait remporté un certain succès. Qu'est-ce que c'est une exposition qui a du succès chez vous en termes de fréquentation?
L'exposition qui a le mieux marché, c'est l'exposition qu'on a fait l'année dernière, qui s'appelait Lyon et la région vue par les artistes. C'était une exposition tournée vraiment grand public. C'était très historique sur l'évolution de Lyon, sur les différents quartiers. On avait eu pas mal de jolis prêts aussi sur cette édition, avec notamment des vues du parc de la Tête d'Or, du quartier des Nez, etc. Et c'est une exposition où, il me semble, en 4-5 mois, on a attiré plus de 5000 visiteurs. Donc c'était quand même assez assez important pour nous. Après, en moyenne, c'est vrai que le lieu fait qu'on est quand même habilité pour recevoir des petits groupes, entre guillemets, parce que le lieu est quand même à la base un immeuble de bureaux, mais on reçoit des groupes toutes les semaines. Mais une expo qui marche, c'est une exposition tout simplement où les visiteurs ressortent en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose, des visiteurs qui reviennent aussi avec des groupes après, en étant déjà venus en individuel. C'est des visiteurs qui, bien sûr, en parlent autour d'eux, et puis des visiteurs qui participent à la promotion de la collection, à sa valorisation aussi, et tout simplement à son maintien en participant, voilà, en payant leur billet d'entrée, en achetant nos catalogues, voilà, d'expositions qu'on édite avec ma collègue pour chaque édition. On essaye de faire un catalogue, voilà, pour chaque exposition, donc ça nous demande un gros travail, voilà, de recherche, de documentation. Donc en fait, toutes ces petites actions, voilà, permettent de soutenir la collection, et c'est ça qui nous fait comprendre aussi que les visiteurs ont aimé une édition, voilà, plus qu'une autre.
Le lieu est aussi proposé à la privatisation. Je voulais en parler. C'est un très beau lieu, hein. Vous disiez 600 mètres carrés, en gros, d'un seul tenant. C'est magnifique, hein. On a une vue sur Fourvière. On est au cœur de Vaise. C'est très très facilement accessible. Ça aussi, c'est important d'être en lien avec les acteurs économiques de notre région, hein, qui viennent ici pour faire des cocktails, mais aussi visiter l'exposition. C'est un élément aussi important aussi de l'économie de la fondation.
C'est ça, tout à fait. Donc en fait, on a on a trois activités en tant que telles. On a l'activité du coup musée qui représente quand même les trois quarts de notre emploi du temps, parce qu'on est quand même très actif. Mais donc on a une activité aussi galerie vente entre guillemets des œuvres, en tout cas une partie des œuvres de la collection. Quand je dis une partie, c'est vraiment une partie. Par exemple, en ce moment, on a une centaine d'œuvres, voilà, qui est disponible à la vente. Et ensuite, on a l'activité événementielle qui bien sûr participe, voilà, à l'économie, à la diffusion du lieu. On peut tout à fait en fait privatiser l'espace ou l'ensemble de l'espace ou même une partie de l'espace. On a des salles de réunion, donc ça nous arrive de recevoir, voilà, en journée pour des conférences, des meetings, des réunions d'entreprise, etc., des petits déjeuners aussi. Et ensuite, le format qui nous est quand même le plus demandé, c'est le format soirée, forcément le format cocktail, voilà, ce qui permet d'avoir accès à la collection, bah, le soir de 19h à minuit, d'être tout seul en plein cœur de Vaise. C'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est dans un quartier qui est quand même relativement occupé par des entreprises, donc le soir en fait c'est pas du tout résidentiel, donc ça nous pose pas de problème pour accueillir un petit peu de monde.
L'exposition actuelle est sur la figure féminine et masculine, aussi bien habillée que déshabillée, et c'est jusqu'à quand ?
L'exposition actuelle, elle s'appelle Masculin-Féminin, la beauté dans l'art du XVIIe siècle à nos jours, donc elle a commencé le 17 septembre dernier, elle a lieu jusqu'au 8 mars de l'année prochaine, donc ça laisse le temps. On fait des expositions maintenant qui sont un petit peu plus longues, voilà, pour que tout le monde ait bien le temps de venir la découvrir. Et puis comme on propose des visites guidées, en fait on est de plus en plus sollicité avec ça aussi, donc si on veut avoir le temps de placer tout le monde, voilà, on essaye d'étaler un petit peu les expositions. Et voilà, c'est une édition où il y a à peu près 250 œuvres qui sont présentées, dont 30 œuvres qui nous ont été prêtées par d'autres collectionneurs privés, mais par d'autres institutions, voilà, la Fondation Renault, le musée Jean Couty, le musée Paul Dini. C'est des structures qui nous suivent beaucoup sur chaque projet, et même si on se prête pas forcément des œuvres à chaque fois, on s'aide beaucoup sur la documentation, etc. Donc c'est important pour nous de créer des synergies, hein, entre les structures, et puis avec des collectionneurs privés aussi, parce que c'est l'occasion de leur permettre de présenter des œuvres intéressantes. C'est une exposition qui pour le coup est très chronologique, comparé à certaines éditions qu'on a pu faire. Mais c'est ça qui est pertinent aussi, c'est qu'il y a une vraie évolution dans le parcours de l'exposition. Et puis bien sûr, quand on fait des visites guidées, tout prend sens. Voilà, on fait des commentaires d'une heure et demie à chaque fois avec ma collègue qui sont très complets, où les visiteurs sont toujours ravis d'en apprendre davantage sur les œuvres et puis sur la lecture des œuvres aussi. C'est ça qui est important. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Ambre, de m'avoir fait visiter cette collection pour la première fois. Je suis totalement épatée et absolument fascinée. J'adore le lieu et tout me plaît. Donc j'invite nos auditeurs à venir découvrir cette collection Thomas Ellie à Vaise. Merci.
Merci à vous.
Ce très beau lieu est ouvert du mardi au samedi, et pour découvrir ce lieu et en savoir plus, thomaselli-collection.com. Hello Guillaume, cette semaine tu es accompagné de Mathieu du groupe Phare, que l'on peut écouter évidemment sur toutes les plateformes, mais tu vas nous en dire évidemment un peu plus. Merci à tous les deux d'être présents.
Bonjour Mathieu, alors il faut préciser que le groupe Phare, donc vous êtes quatre,
ouais.
Comme on le disait en aparté, donc voilà, vous êtes néo-lyonnais pour certains viennent de Toulouse, et vous venez de sortir un album que vous avez produit en crowdfunding et qui a bien marché et qui s'intitule...
Nouveau récit.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la naissance du groupe, et puis comment on en arrive déjà à faire un premier album avec un certain nombre de chansons quand même? C'est assez rare d'avoir autant de chansons sur un disque aujourd'hui en 2024.
Ouais, bah parce qu'on s'est pas trop écouté, je crois. Et puis si on avait eu le devis du studio avant, on en aurait peut-être fait moins. Mais non, blague à part, Phare, ça a commencé à exister en 2020. On s'est retrouvé avec deux amis d'enfance, Paul le chanteur et Mathieu à la batterie. On est deux Mathieu sur Lyon. On est arrivé là pour le boulot à l'origine. Et puis ça faisait déjà quelques années qu'on faisait de la musique ensemble à Toulouse. Pour des soirées, des mariages, des anniversaires, enfin, pour se marrer en fait. Et puis on avait envie d'un truc un peu plus construit, un peu plus personnel. Donc on a lancé Phare. On a vu qu'il nous manquait une basse. Alors on a rencontré, grâce à une annonce, Augustin, qui est lui pour le coup un vrai Lyonnais de Lyon, un gaune comme on dit je crois. Et on a commencé l'aventure à quatre avec un premier EP issu essentiellement de textes que... de textes et de lignes de guitare que Paul nous avait amené, qu'il avait écrit depuis déjà pas mal d'années. Il a tiré un peu son sac dans le monde entier et même la jeunesse du projet, il était en train d'écrire de son côté à La Réunion et moi de composer 2-3 trucs au Cambodge. On s'envoyait des mémos comme ça, donc ça a commencé à distance. Et puis Lyon, ça a permis de structurer et aussi d'apporter des nouvelles choses avec Mathieu à la batterie qui a un univers musical qui n'est pas le même que Paul et moi, Augustin pareil, et d'avoir une espèce de rencontre des genres, ce qui a généré pas mal de créativité et donc effectivement 13 morceaux pour l'album.
Alors pour cet album, il faut dire aux auditeurs, voilà, c'est peut-être un album, quand on écoute, vraiment, il met la banane, c'est un truc de fou. Vraiment, ça fait sourire. Enfin, en ce moment, c'est un peu morose. En plus, on entre dans les moments un petit peu, voilà, les frimas de l'automne, voilà, et la pluie. Et vraiment, ça donne la pêche, quoi. Il y a vraiment un côté ensoleillé dans ce que vous faites. Alors, comment vous êtes arrivé à ce résultat
Je pense que déjà la première chose, c'est que on a toujours fait de la musique pour amuser les copains, parce que la musique finalement, elle peut transmettre beaucoup de choses. Et puis nous, on a plutôt décidé de s'orienter sur la joie de vivre et puis sur ces énergies positives qui nous traversent au quotidien. Et en même temps, on est des gens qui avons plusieurs facettes. Autant dans la joie que parfois dans le désespoir, dans la tristesse, dans les difficultés sur certains aspects de nos quotidiens. Et on a essayé de construire notre musique en étant toujours dans cet entre-deux. Alors soit avec des textes un peu plus lourds et des musiques un peu plus légères, soit avec des musiques un peu plus lourdes et des textes un peu plus légers. Et parfois on n'est que dans la lourdeur et parfois on n'est que dans la légèreté, mais l'album il essaye aussi de se répondre avec des chansons qui vont venir compenser une autre pour que dans un ensemble, les gens ressortent de ça avec, on espère, la banane, tu l'as dit. Donc ça, si c'est le cas pour toi, ça fait plaisir. J'espère que ce sera le cas pour les autres personnes qui écouteront ça. Et puis l'idée aussi, c'était d'avoir des textes qui ont pour ambition de pas d'être dans la morale, mais plutôt d'être dans le témoignage de ce que nous, on peut expérimenter, ce qu'on peut vivre, essayer de permettre la transformation, en tout cas chez nous, de quelque chose de plus positif dans les épreuves qu'on connaît tous les uns et les autres, avec différents degrés évidemment.
Ah ouais.
Et voilà, donc nouveau récit pour nous, on a essayé de le composer comme une histoire qui a un début, un milieu et une fin, une espèce de progression, de cheminement sur nos réflexions. Et on en est hyper content et on a eu des super retours et ça nous encourage à continuer à écrire, à composer.
Mais je vais dans ton sens parce que je pense notamment au titre Magicien, délivre-moi du triste qui me rend gris, enivre-moi un peu de ton réel. Donc voilà, quelque chose d'un petit peu qui prend aux tripes un petit peu. Et puis l'autre côté, cette chanson Gamin là qui et tu seras citoyen gamin. Alors comme tu dis, c'est pas donneur le son du tout, mais au contraire, c'est plein d'espoir. Et je trouve qu'en ce moment on fait pas trop confiance dans la jeunesse. Et je trouve que ce titre-là, il est assez, assez intéressant de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce titre, Gamin ?
Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que c'est Paul qui l'a écrit, et il l'a écrit plutôt pour un peu dans une discussion avec son lui plus jeune. Et en se disant que finalement, ce qui nous a peut-être manqué dans notre jeunesse, c'est d'avoir été entouré d'adultes qui ont cru en nous. Et quand on a eu accès à ces adultes-là, et on a plein de gens autour de nous qui nous ont accompagnés dans cette période parfois un peu complexe d'identité, de recherche d'identité, d'orientation, et puis où on nous challenge énormément sur qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont les choix qu'on doit aborder, eh bien, Gamin, il a pour ambition de dire, ben, avant tout, fais-toi confiance. Faisons-nous confiance, d'ailleurs, généralement, parce que je pense qu'on a l'impression d'être isolé et d'agir un peu dans notre coin, mais la réalité fait qu'on observe que les jeunes, ben, ils sont pleins de ressources, ils ont plein d'idées, et qu'il suffit juste de leur laisser un espace suffisamment grand pour que cette liberté s'exprime et qu'il y ait des choses hyper belles qui en découlent. Et puis la deuxième chose, c'est que avec Paul, ben, nous, plus jeunes, on a été encadrants de jeunes. On a passé nos BAFA, on a fait des camps, enfin, on était scouts, donc, et Paul aussi en colo. Et donc, on a aussi, je pense, un attrait particulier pour la jeunesse et pour l'encourager à, ben, à développer ses idées, ses projets, parce que ben, d'être au contact de la jeunesse, nous, ça nous permet aussi de rester un peu plus jeunes. Alors, on n'est pas vieux, hein, on va pas...
Non, je confirme.
On va pas grossir le trait, mais je pense qu'on perd la curiosité, on perd la spontanéité, et le fait de rester dans cette dimension-là, de rester curieux et connecté à la jeunesse, sans faire les jeunes, parce que c'est, je pense que c'est pas l'enjeu non plus, ben, ça nous permet aussi de continuer à être peut-être lucide et alerte sur ce qui se passe autour de nous, et de garder la pêche, parce que c'est quand même ça le plus important.
Alors vous chantez en français, c'est de la chanson française, on est d'accord, mais moi de temps en temps sur certains morceaux je vois un peu de hip-hop finalement derrière, un petit peu caché, et en fouillant un peu sur internet je me suis aperçu que vous avez fait 2-3 reprises d'Orelsan, de Stromae. Alors cette petite touche un petit peu de hip-hop, ou en tout cas de slam, enfin je sais pas comment on pourrait dire ça, ouais. En tout cas de chansons, de moments parlés un petit peu.
Okay.
Et comment vous avez envisagé ça?
Alors je pense que on avait envie d'expérimenter. Mmh. Je pense que la chanson à laquelle tu fais référence, c'est Nouveau Récit, donc l'introduction de l'album. Et là l'idée c'était pouvoir déclamer un texte qui est très lourd, enfin très lourd, qui est complet et qui a beaucoup de mots, quoi. C'est assez dense. Et on n'arrivait pas forcément à se positionner sur un aspect chanté. Et on s'est dit, ben, autant le parler et puis essayer de le faire vivre un peu différemment. Et c'est vrai que ça fait un peu différent avec le reste de l'album qui est beaucoup plus chanson.
Alors on va peut-être écouter un titre.
Ouais.
Alors on va écouter peut-être le titre qui a été mis en image,
ouais.
À l'Intermarché de Charolles. J'ai bien repéré ça. Ils ont dû bien se marrer là-bas.
Ben, ils ont été super cool de nous accueillir, voilà. Surtout.
Tout à fait. Donc c'est un titre qui s'intitule Putain, je suis fou.
Devant l'immensité, j'ai tant de choses à voir. Adieu le désespoir. Il y a tant de couleurs, de paysans chanteurs. Je ne veux pas mourir idiot. La vie est un cadeau. Putain, je suis fou, complètement fou, fou de la vie. Mon Dieu, merci. Complètement fou, fou de cette vie. Putain, quel kiff d'être si naïf. Pas aimer tous ces nouveaux projets, nos prochaines aventures, les pots de confiture. Il y a tant de couleurs, de paysans chanteurs. Je ne veux pas mourir idiot, la vie est un cadeau. Putain, je suis fou, complètement fou, fou de la vie. Mon Dieu, merci, complètement fou, fou de cette vie. Putain, quel kiff d'être si naïf. complètement fou, fou de cette vie. Putain, quel kiff d'être si naïf. Putain, je suis fou.
Donc on vient d'entendre Putain, je suis fou du groupe Phare. Alors, vous êtes tous fous en fait. On est tous un peu fous en fait.
Je pense que on n'exprime pas tous notre folie. Et je pense qu'on a besoin de plus en plus d'avoir des espaces d'expression de la folie. Alors à différents degrés. Et l'idée, c'est pas de se mettre en danger ou d'être mal à l'aise. Et cette question de la folie, c'est on a essayé de le tourner d'une certaine manière en disant que parfois on peut être considéré comme fou à profiter des choses simples et essentielles de la vie parce que par ailleurs, on a l'impression que si on n'est pas dans une espèce de surenchère du succès ou de la réussite ou de la démonstration, à ce moment-là, on est dans une forme de banalité. Et on a essayé de dire que finalement, peut-être la banalité aujourd'hui, c'est une forme de folie par rapport à un monde qui nous amène à penser différemment. Ouais. Et que dans ces petites attentions ou ces petits moments simples du quotidien, bah, nous, on trouvait une forme d'épanouissement et de joyeuseté. Et que finalement, la folie vue comme ça, pour nous, c'était intéressant.
Moi, j'aime bien dans la chanson cette phrase « Putain, quel kiff d'être si naïf ». Je trouve que c'est très joli, en fait, voilà. Très joliment dit. Ouais.
Toujours un rapport à l'enfance, ou à l'enfant, en tout cas, qu'on chérit au fond de nous. Parce que je pense que Phare, l'idée, c'est de faire des choses pas sérieuses, sérieusement. Je pense qu'on s'est donné les moyens d'avoir un beau projet, de bien le produire, et en même temps de proposer quelque chose de léger, parfois d'un peu simpliste. Mais parce que l'ambition, c'est de passer un bon moment avec les gens. Nous, on est considérés comme un groupe de live. On espère que ça ressortira dans l'album. Mais voilà, en tout cas, c'est une chanson qui, pour nous, en concert, est une invitation avec les gens à mettre son cerveau de côté intelligemment pendant un temps et puis juste se lâcher et à la fin se sentir bien parce que en communion on a fait une petite folie collective et ça c'est cool.
Et bien on peut préciser aussi que vous êtes suivi par le labo du conservatoire, on salue Francis une fois de plus pour la énième fois et puis par aussi la tannerie
Et Jojo.
Voilà, et Jojo, voilà c'est ça.
Et puis au labo cette année on est accompagné par Julien.
Ouais. Donc, bien sûr qu'on connaît bien aussi, Julien Chiez.
Exactement, donc on est dans notre deuxième année. C'est une expérience hyper enrichissante, déjà au niveau des professeurs ou des accompagnants qui nous transmettent leur passion et puis leur savoir-faire et qui challengent le projet pour le rendre meilleur. Jojo de la Tannerie aussi, c'est un des premiers qui a cru dans notre projet, qui nous a mis à disposition des ressources, du matériel, des contacts pour faire évoluer le projet. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment de la chance, on commence à fédérer des gens autour de nous, du projet pour l'amener le plus loin possible. Et grâce à ça, on a accès à des résidences, on a accès à des salles de concert pour expérimenter dans des conditions professionnelles. On a accès à plein de gens qui nous posent des questions, qui interrogent notre projet, qui nous font grandir. Donc, si vous êtes musicien et que vous avez envie de développer votre projet, n'hésitez pas à taper à la porte du labo du conservatoire ou à toutes les SMAC du territoire parce que c'est des personnes passionnées qui prennent du temps pour développer des projets et nous on en a bénéficié, il n'y a pas de raison que d'autres n'en bénéficient pas.
Alors pour terminer on va peut-être nommer quelques dates de concerts, donc oui. Je crois que vous jouez le 15 novembre à Mancia, c'est dans l'Ain.
Exactement.
Et Mancia c'est pour préciser, parce que moi j'avoue que je ne savais pas où était Mancia, et bien c'est au nord de Belleville, donc c'est le long de la Saône, donc c'est pas très loin de Lyon, donc voilà, allez voir Phare à Mancia. Et puis plus tard dans l'année, en 2025 le 13 février, il y aura un concert à la salle des qu'on connaît bien ici.
Exactement, dans le cadre du labo, et puis dans tous les cas, toutes les dates, tous les liens sont sur les réseaux sociaux et notre site internet. Voilà, si vous voulez écouter l'album, si vous voulez l'acheter aussi, il est disponible à la Fnac. Enfin, on a essayé de faire ça correctement. Et puis, même si vous ne l'achetez pas, on adorerait avoir des retours, savoir ce qui vous a plu, les chansons que vous avez aimées.
D'accord,
et puis
très
de se croiser en concert quoi.
Bon, écoutez, allez écouter Phare. Et puis on précise qu'il est distribué par Inouï Distribution, qui fait un travail de dingue aussi.
Excellent.
Auprès des jeunes groupes. Merci à toi Mathieu, tu salues la bande.
Je leur ferai une grosse bise, ouais.
Merci à toi, au revoir.
Journée, salut.
Gaël, cette semaine, tu évoques une galerie qui ferme ses portes. Que dis-je, une galerie, un véritable repère pour photographie contemporaine. Mais avant la fermeture, une dernière exposition est immanquable. Nous t'écoutons.
Dernière exposition à la galerie Le Réverbère, Histoire sans fin, histoire au pluriel. Catherine Derioz et Jacques Damez incarnent 45 ans d'engagement dans la photographie et 43 ans de galerie. Clap de fin pour le Réverbère. Une institution ferme. Le Réverbère va s'éteindre fin décembre. Changement et financiarisation du marché. Poids et privilèges des foires. Nouvelle logique de distribution. Augmentation des charges. Le modèle économique n'était plus viable. Pendant plus de 4 décennies, Catherine Derioz et Jacques Damez ont joué le rôle d'un service public. Découverte, accompagnement et diffusion de photographes, médiation avec les publics, rencontres et conférences. Ceci sans soutien financier de la collectivité. La première œuvre, dès la vitrine, un grand The End, signé Philippe Pétremant, accentue l'annonce de la fermeture. Cependant, le titre de cette ultime exposition, Histoire sans fin, sonne un petit peu comme un pied de nez au destin. Les photos ont des histoires qui ne se finissent jamais. Pour la dernière, le Réverbère a sélectionné 21 photographes. Depuis toutes ces années, les compagnons de route sont effectivement nombreux. Cette vaste programmation nécessite un espace d'accrochage conséquent. La scénographie est inédite. Une cimaise, astucieusement positionnée en diagonale dans la salle du bas, offre ingénieusement deux pans de mur supplémentaires. Les signatures sont emblématiques. William Klein, dès l'entrée du parcours, avec un contact peint en bleu du club Allegro Fortissimo, ou encore les griffes de Marc Ribou, Bernard Plossu ou Denis Roche. Le Réverbère a ouvert en 1981. Dès 1982, la galerie représentait Ariel Bonzon, évidemment présente dans l'exposition. Ses séries « Chère absente épiphanie » avec des impressions au pigment de charbon sur papier ou « Équinoxe d'automne » sur papier barité ont ponctué le cycle de vie de la galerie. Vie avec ses instants suspendus, parfois empreints de solitude, propos de Géraldine Ley dans sa série « North End ». Des fenêtres introduisent de nouveaux cadrages et les jeux entre intérieur et extérieur rappellent l'univers méditatif d'Edward Hopper. Introspection, méditation et également voyage, thème largement abordé dans l'exposition. Le Réverbère continue cette odyssée avec une sélection de livres des photographes à l'étage. L'exposition Histoire sans fin est programmée jusqu'au 28 décembre 2024. À noter, une rencontre est programmée avec le public le 21 novembre à 19h sur inscription. Plus d'informations sur galerieleréverbère.com.
Merci beaucoup Gaëlle. Thomas, la lecture cette semaine est consacrée à Thierry Roquet, des extraits du recueil d'Ordinaire Cascade, au pluriel, aux éditions Au Caillou des Chemins. Nous t'écoutons et on en parle juste après.
Dedans, le bus bondé de pieds crottés, la pluie. Un homme écrase une cigarette sur une femme qui lui lance un enfant en pleine gueule, d'où l'enfant rebondit sur l'œil unique et concentré du conducteur qui reconnaît à peine son fils après 10 ans d'absence. Mensonge ! Coup de frein, des pleurs. Une étoile filante heurte le feu au rouge. Son cœur fait boum. Du sang s'écoule sur la paroi du bus. Panique. Des hauts. Selfie. La pluie. Sur le trottoir attend un homme à poil de nez trop long, près d'un autre homme muni d'une paire de ciseaux, prêt à lui sauter dessus dans le repli humide et doux des parapluies. Surprise et peur. Feu vert. Dedans le bus bondé de pieds crottés, la porte ne se referme plus. Des bousculades, des meuglements. C'est la grand-mère au du fond. On vient de lui voler son dentier neuf et elle est sûre que le coupable est celui-là qui recoiffe un épi de ses cheveux crépus. Insulte, sueur froide, la pluie. Sur le trottoir attend un chien d'aveugle où la canne blanche frappe en cadence la colonne vertébrale d'un musicien ambulant. Sirène, excuse, douleur, brancard, feu rouge. Au terminus, sortant du bus avec les pieds crottés, des regards vides et fatigués, elle lui raconte au téléphone, s'excusant du retard, qu'il s'est passé des choses étranges, qu'il ne la croirait pas de toute façon. La pluie.
Merci beaucoup. Qui est ce Thierry Roquet ? J'ai trouvé qu'il était né en 68 en Bretagne. Et il vit aujourd'hui à côté de Paris.
Ouais, tout à fait. Thierry Roquet, c'est un poète sympa. C'est bien de parler des poètes vivants. En général, c'est ce que je fais avec toi. Mais au-delà, il y a des poètes qui sont vivants et sympas. Et donc, ça mérite de parler d'eux aussi. Donc, c'est un gars qui a eu un parcours un peu secret pendant des années, et puis un jour qui s'est mis à écrire, à participer à beaucoup de recueils collectifs, à des revues. Et là, maintenant, il en est à une quinzaine d'années de publication, de loin en loin. Donc il a été publié chez Gros Texte, un éditeur dont j'ai déjà pas mal parlé ensemble. Et puis également Pédalo Ivre, hein, qui était un petit éditeur aujourd'hui mis en sommeil, tenu par Frédéric Houdard sur Lyon. Voilà, et puis ce recueil que dont je viens de vous lire un extrait est aux éditions Cailloux des Chemins, qui est un petit éditeur tout récent.
J'aime beaucoup le nom. Et puis d'ordinaire cascade, qu'est-ce que c'est beau.
Ouais.
Et ça coule, hein, c'est d'ordinaire cascade.
Oui, il y a beaucoup de pluie en plus.
C'est magnifique. Ah oui, en plus avec la pluie, ça coule.
Voilà.
Merci beaucoup, Thomas. Nous terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur, nos incontournables Gédéon. Alors Guillaume, avec quoi es-tu venu cette semaine ?
Alors moi je suis venu avec un disque extraordinaire d'un groupe de la région, d'un groupe de Clermont-Ferrand qui s'appelle Mustang. Ça fait un moment qu'on connaît Mustang,
oui.
Puisqu'ils ont commis un premier album qui s'appelait A71, l'autoroute qui va donc à Clermont-Ferrand. Et là, ils viennent de sortir leur nouvel album. Qui s'intitule Méga Phénix, et c'est méga bien Mustang, parce que Jean Felsine, le chanteur qui écrit les chansons en français, c'est sans doute la plus belle plume de la chanson actuelle, parce qu'il est très 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 cynique, hein, voilà, et c'est très 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 drôle en fait de l'écouter. C'est vraiment un excellent disque. On espère qu'il sera très prochainement programmé à Lyon. On peut peut-être écouter un titre, hein.
Ah oui,
voilà.
Un petit extrait peut-être.
Ouais, et un petit extrait, et j'ai oublié le titre, et là c'est terrifiant, j'ai oublié le titre.
Eh bien c'est pas grave.
Bon, eh bien tant pis.
On écoute un extrait du nouvel album de Mustang. Méga Phénix.
Mais on me ferme la porte au nez. Je branche cette fille qui a un beau cul. Mais elle me ferme la porte au nez. Est-ce que j'inspire le dégoût? Est-ce que ma bite elle a un goût? On me ferme la porte au nez. Dans ma poche toujours un CD. Mais on me ferme la porte au nez. J'suis toujours prêt à me solder. Mais on me ferme la porte au nez. Et les majors et les indés, t'es trop varié, tout est trop spé. On me ferme la porte au nez. Oh, on me ferme la porte. Maman, je fais pas de télé. Ne me demande plus, s'il te plaît. Je fais pas les festivals d'été. Je serai chez moi tout juin, juillet. J'aurai jamais mes annuités. Je travaille pour l'éternité. Je me ferme la porte au nez. je peux pas goûter le gâteau. C'est mon destin, je suis condamné. Ils font leur anniv au McDo, ils ont tous la play en cadeau. Moi je la ferme, la porte au nez. Non, on me ferme, la porte au nez. Ouh, on me ferme, la porte au nez. Ils finiront par le payer, ça finira par me tuer. On me ferme, la porte au nez. Ouh, on me ferme, la porte au nez.
On vient d'écouter un extrait de Mustang.
De Mustang. Alors moi j'adore ce passage dans cette chanson. Mais on me ferme la porte au nez, et les majors et les indés, t'es trop variette ou t'es trop spé, on me ferme la porte au nez. Non non maman, j'ai pas fait de télé, ne me demande plus s'il te plaît. Je fais pas les festivals d'été, je serai chez moi en juin, juillet. Moi, je trouve ça très, très, très drôle. Mais en fait, c'est très, très autobiographique. Mais vraiment, c'est un excellent disque, à la fois rock, à la fois pop. C'est vraiment bien.
Super.
Mustang, Mega Phoenix.
Génial. Merci beaucoup. Pour ma part, ce sera un film, All We Imagine as Light, film indien de Payal Kapadia. Grand prix à Cannes cette année. Il est à voir en salle depuis le 2 octobre. La ville de Mumbai est filmée magnifiquement. C'est un véritable personnage dans ce film. Repérée avec le documentaire Toute une nuit sans savoir, la réalisatrice se lance dans la fiction sans pour autant perdre cet amour du moment pris sur le vif, du fragment. Dans cette nuit perforée par les lumières de la ville, sa caméra à l'épaule et ses travelling en voiture prennent le pouls de Mumbai et de sa dense population. C'est par de petits gestes que des visages et des corps se distinguent dans la foule, cueillis comme des fleurs. De ce flux incessant de trains et de gens émergeant ainsi, Praha et Anu, les deux protagonistes, toutes les deux infirmières en plus d'être colocataires. La première, introvertie et impassible, se refuse à toute relation depuis que son mari est parti travailler en Allemagne, la laissant sans nouvelles. La seconde, plus jeune et frondeuse, cache comme elle peut la relation qu'elle essaie d'entretenir avec un garçon musulman. Ces deux amours impossibles constituent le point de jonction du long métrage, un croisement des sentiments où les deux femmes se rendent compte qu'au fond, il ne reste plus qu'elles. Bien qu'esselées et écrasées par cette mégalopole bruyante, ces personnages magnifiques n'abandonnent jamais vraiment. Très beau film, au-delà du dépaysement bien sûr, à voir pour tous les amoureux de l'ailleurs. Autrement.
Gaëlle, avec quoi es-tu venue cette semaine ?
Mon jet d'ayon de la semaine est Trame, T-R-A-M-E-S, un parcours artistique en résonance avec la 17e Biennale de Lyon. Le projet Trame, initié par le Nouvel Institut Franco-Chinois en partenariat avec la Maison des Arts de Pékin Yishu 8, tisse et donc Trame des liens entre la France et la Chine. Sur les 5 lieux accueillant le parcours, 3 sont déjà ouverts. Le nouvel Institut franco-chinois, le parc de la Croix-Laval et à noter un nouvel espace, la Maison d'art Françoise Besson. Les deux lieux restants ouvrent respectivement le 20 octobre pour la Fondation Renaud Fort de Vaise et le 12 novembre pour le musée de l'Hôtel Dieu de Belleville en Beaujolais. Au nouvel Institut franco-chinois, l'exposition du parcours Trame s'intitule « Monde nomade ». Les méditations des peintures de Xia Jung Song se composent d'une avalanche de traits toujours tracé avec un méticuleux et minutieux parallélisme. On songe à des cheveux tressés ou à des fils qui auraient été déroulés d'amples pelotes de laine. L'effet est tout à la fois dense et aérien. Kai Yaling, elle, expose une vaste installation constituée de rideaux de perles. L'agencement particulier des perles de couleur forme un portrait. Je vous laisse découvrir l'intégralité du parcours Trame sur le site du Nouvel Institut franco-chinois, nifc.fr. Trame est programmée jusqu'au 24 décembre.
Merci beaucoup, Gaëlle. À la semaine prochaine, restez curieux. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.